Et on ouvre le débat avec notre invité Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Daniel Messager, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste santé de la rédaction de France Inter, merci de nous avoir rejoint. Et bonjour au standard à Monia, vous avez la parole.
Bonjour.
Bonjour.
Donc moi je souhaitais intervenir contre cette aberration de rendre obligatoire 11 vaccins pour des nourrissons, ça n'a aucun sens. Pour deux raisons. D'abord, on a fait des vaccins maintenant, pratiquement tous, avec de l'aluminium, cet adjuvant, qui est terrible parce qu'il passe dans le cerveau des bébés, puisqu'avant l'âge de 6 mois, leur membrane encéphalique ne peut pas les protéger. Donc ça n'a aucun sens de mettre de l'aluminium pour les nourrissons.
Vous n'êtes pas médecin, hein, Monia.
Je m'intéresse aux questions de santé.
Je le précise, hein.
Voilà.
Alors, il y avait un deuxième point et une question peut-être pour.
Le deuxième point, c'est le vaccin contre l'hépatite B. C'est aussi une aberration de vacciner un nourrisson contre l'hépatite B. On n'a qu'à faire un calendrier vaccinal et le vacciner plus tard quand il est adolescent et peut-être exposé à l'hépatite B, mais pas un nourrisson. Mmh.
Merci pour cette double remarque, Agnès Buzyn. On en parlait à 8h20. La confiance n'est pas rétablie par une loi. Du tout.
Alors, le problème, c'est que le manque de confiance aujourd'hui, il est essentiellement lié à des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut lutter contre beaucoup de fausses informations. Donc, c'est compliqué pour les pouvoirs publics. Il faut savoir, et donc je veux rassurer l'auditrice, qu'aujourd'hui, 80% des enfants français reçoivent déjà dans leur calendrier vaccinal ces 11 vaccins. Donc, et ils ne sont pas malades. Ces 80% d'enfants, nous les avons tous autour de nous. Ils ne sont pas malades. Ils ne souffrent d'aucune maladie. Ce qui est donc demandé, c'est que simplement les 15% d'enfants qui devraient être vaccinés en plus le fassent de façon à protéger l'ensemble de la population et notamment les nourrissons qui ne sont pas encore vaccinés, les enfants qui souffrent de cancer ou de leucémie, qui sont immunodéprimés et qui peuvent mourir de ces maladies. Et enfin, je rappelle qu'il y a eu 10 enfants morts de la rougeole ces dernières années qui étaient tous des enfants non vaccinés. Il y a 2000 cas d'hépatite B aujourd'hui chez nos jeunes. Nous sommes le pays où l'hépatite B est le moins, où la vaccination contre l'hépatite B est la moins réalisée des pays industrialisés. Et donc tout ça a un impact sanitaire majeur pour nos jeunes et pour nos enfants.
Est-ce qu'il y aura des exemptions à cette loi ordonnant de faire vacciner les enfants avec 11 vaccins donc ?
Alors, aujourd'hui, lors de la concertation citoyenne qui avait eu lieu l'année dernière sur les vaccins, les associations d'usagers avaient demandé un droit d'exemption. Donc nous travaillons juridiquement pour voir si ce droit peut tenir la route juridiquement pour répondre aux recommandations de la concertation citoyenne. Je rappelle que l'objectif n'est pas de sanctionner, l'objectif c'est de dire aux gens les vaccins qui sont d'ores et déjà obligatoires, personne ne le remet en doute, la confiance existe.
Mais on pourra dire non, donc, s'il y a une bretelle d'exemption.
Non, l'objectif, c'est que les gens...
On pourra, mais l'objectif, c'est une chose, mais est-ce qu'on pourra, si on ne veut pas vacciner ses enfants avec les 8, est-ce qu'on pourra continuer à faire valoir ce refus ?
Aujourd'hui, ces enfants qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas rentrer en collectivité.
Donc ça, c'est clair et net. Il sera demandé les écoles, dans les crèches, à refuser l'accès à ces enfants-là.
Absolument. Je rappelle que d'autres pays ont été obligés d'avoir ce type de mesures, notamment l'Italie, en raison d'une baisse progressive de la couverture vaccinale.
On retourne au standard. Philippe, bonjour.
Allô ?
Philippe, oui, vous êtes là ?
Oui, bonjour. Vous m'entendez ?
Parfaitement bien.
Oui, bonjour. Je suis cardiologue et je voulais vous faire part de mon inquiétude vis-à-vis du ressenti de nos patients, conforté par l'affaire Levothyrox, notamment vis-à-vis des statines, des anticholestérols, qui ont prouvé de façon éclatante leur efficacité en termes préventifs et curatifs, je dirais, ou en tout cas de prévention secondaire. Je voulais poser la question à Mme Buzyn de savoir si elle pourrait envisager une campagne d'information positive concernant ces médicaments, enfin les médicaments en général. Et je voulais juste ajouter que j'étais consterné d'avoir vu dans la manifestation contre la nouvelle formule du Levothyrox, le docteur Even, qui est le principal adversaire des statines, et qui a sûrement des centaines de morts à son passif.
Ça, on vous en laisse la responsabilité. Merci Philippe pour cette intervention. Agnès Buzyn.
Donc c'est une question importante. Monsieur Even a été radié de l'ordre des médecins pour ses propos sur les statines, puisqu'effectivement, il a mis en danger un certain nombre de personnes qui ont arrêté leur traitement. Mais nous avons globalement à faire face à une défiance énorme des Français vis-à-vis des médicaments. C'est la raison pour laquelle je souhaite lancer une mission sur l'information autour des médicaments. Je crois qu'il y a un enjeu... Mais notre pays est étonnant, parce que à la fois, il y a une immense défiance, et à la fois, nous sommes le pays qui consommons le plus de médicaments en Europe.
Cette défiance, elle est portée aussi par un certain nombre de médecins. On le voit bien, on a cité le professeur Even, il y en a d'autres. Est-ce que ça ne participe pas justement d'une interrogation généralisée et sur les vaccins et sur les médicaments?
Oui, mais il y a aussi des gens qui cherchent à exister et ils touchent à une corde sensible aujourd'hui dans notre société, qui est la défiance, le complot. Et donc, c'est normal que certaines...
Oui, mais on peut le voir positivement aussi, Madame la Ministre.
Je suis d'accord.
On a encouragé les citoyens à devenir acteurs de leur santé. On a effectivement des ressources intellectuelles infinies. On n'est pas médecin en même temps, donc on peut se tromper quand on regarde tel ou tel site sur Internet. Mais c'est un mouvement de très profond, très puissant de ces 20-30 dernières années. Il n'y a pas que les médecins qui aient l'autorité. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un dialogue. Donc, on ne peut pas balancer une loi verticale, Agnès Buzyn, et ne pas voir le nouvel état du monde.
Alors, vous avez absolument raison. Je suis une fervente défenseur de la démocratie sanitaire et de l'information des malades.
Mais vous sifflez la fin de la récré à un moment.
Je siffle la fin de la récré parce que là, on a des enfants qui meurent sur les vaccins. Donc, à un moment, ça suffit. On ne peut pas laisser des épidémies de rougeole émerger dans notre pays avec des encéphalites, des enfants qui sont handicapés à vie, des morts, alors que l'Amérique du Sud a réussi à éradiquer complètement cette maladie. Donc oui, je siffle la fin de la récré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer, être transparent, faire des débats citoyens sur un certain nombre de sujets. Mais là, on parle d'autre chose, on parle d'un risque sanitaire.
Une question très simple, y a-t-il oui ou non de l'aluminium dans les vaccins? Est-ce oui ou non dangereux? Je vois ça sur mes écrans.
Alors, il y a effectivement dans certains vaccins un tout petit peu d'aluminium. Nous en mangeons tous les jours de très grandes quantités. Pour l'instant, il n'y a aucun risque avec l'aluminium, tous les rapports le montrent.
Roger, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci, monsieur Demorand. Bonjour, madame le ministre.
Bonjour.
Madame le ministre, j'ai une question très simple, mais qu'en même temps est extrêmement, pour moi, importante. Vous parlez de pédagogie. J'ai l'impression que vous maîtrisez tout. Dites-moi, madame le ministre, comment vous allez procéder pour la loi, attention, je vais lâcher la bombe, sur la PMA, sachant que déjà, Ludovine de la Rochère, la Manif pour tous, Civitas, Sens commun, Laurent Wauquiez, et j'en passe, et des meilleurs, ont déjà promis, pas menacé, promis d'occuper la rue, que cette loi ne passerait pas, avec même une hypothétique idée d'abrogation de la loi Taubira. Comment allez-vous faire face
merci,
à ces gens-là ?
Merci Roger. Agnès Buzyn vous répond.
Merci pour cette question, c'est une question importante. Le président de la République a souhaité dans son programme affirmer qu'il permettrait la procréation médicale assistée pour les couples de femmes homosexuelles. L'argument, c'est qu'il existe aujourd'hui pour toutes les femmes. En fait, pour toutes les femmes. Il existe aujourd'hui une discrimination pour les femmes selon qu'elles sont mariées à une femme ou à un homme. Et donc, le défenseur des droits est en faveur de cette mesure, de même que le Comité national d'éthique. L'année prochaine, la loi de bioéthique doit être révisée, des débats citoyens vont être organisés, c'est ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique, où ces questions vont être discutées dans les régions. Le gouvernement proposera un projet de loi qui tiendra compte évidemment des débats citoyens et qui devra être voté au Parlement. Nous verrons ce qui sortira des
débats
citoyens.
Vous y allez moderato, madame la ministre.
Non, le projet de loi sera proposé par le gouvernement. C'est une promesse du président Macron.
Daniel Messager.
Alors, en dehors du postulat qui est évidemment que la PMA sera, ce que vous proposez, sera ouverte à toutes les femmes, mariées ou célibataires, il y a des questions pratiques qui se posent derrière. Est-ce que vous vous y préparez déjà? Il y a des questions pratiques autour des sécos, les centres qui vont procéder à ces inséminations. Il y a des questions pratiques autour du remboursement. On dit que c'est pas une maladie, donc pourquoi est-ce qu'on rembourserait? Je pense que va y avoir tous ces débats de bioéthique, mais vous, le gouvernement, il faut quand même penser à toutes ces questions d'ordre pratique qui sont à considérer en amont. Vous êtes déjà sur ces dossiers, j'imagine? Parce que ça va
Agnès
faire
Buzyn.
Du bruit aussi.
Vous avez totalement raison. Il y a toujours, dans l'application d'une loi, beaucoup de questions pratiques qui se posent. Pour l'instant, nous travaillons à ces sujets et donc les décisions n'ont pas encore été prises.
On retourne au standard. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Inter.
Merci. Alors, moi, je souhaitais poser une question à Madame la Ministre au sujet des violences obstétricales. C'est un sujet dont s'est emparée la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, cet été. Et j'aurais voulu connaître son avis sur ce sujet et notamment élargir à la prise en charge de la grossesse des femmes en France qui aujourd'hui se fait essentiellement à l'hôpital. Alors, depuis 2016, les maisons de naissance ont ouvert pour certaines en France. Il y en a 7, si je ne me trompe pas. Et je voulais connaître son point de vue sur permettre d'étendre cette option pour les femmes et aussi la prise en charge via la T2A, enfin pour le financement des maternités qui aujourd'hui, à mon avis, manque cruellement de moyens et donc de personnel et provoque en fait ce débat sur les violences obstétricales.
Bien reçu, Sophie. Agnès Buzyn répond à ce premier volant de questions.
Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées par cette auditrice. Une première question sur le financement des hôpitaux, et on y reviendra, c'est évidemment un sujet. Par ailleurs, sur les violences obstétricales, il y a effectivement des associations qui ont pointé du doigt le fait que le nombre d'épisiotomies était important dans notre pays. Les points de vue des différentes sociétés savantes est un peu différent et modère ce chiffre qui a été porté par une association. Et donc, nous avons demandé une étude de façon à voir si c'est réel ou pas réel et travailler avec les obstétriciens sur cette question d'épisiotomie.
Le président du Collège des gynécologues, on l'entendait dans un zoom de Véronique Julia sur France Inter, Israël Nizan, estime que sur les épisiotomies, ça concerne moins de 5% de la profession, dit-il, mais c'est déjà trop. Il proposait, on l'entendait sur Inter, la création dans les maternités d'un label de qualité qui permettrait aux femmes de savoir réellement où elles vont quand elles accouchent. Israël Nizan disait que ce label pourrait arriver voir le jour très très vite s'il y a une vraie volonté de l'État.
Absolument.
Que lui répondez-vous? Est-ce qu'on va rapidement vers ce label?
En fait, c'est une volonté de l'État de rendre transparent la qualité des soins dans les établissements. Pour les accouchements, mais pour tous les actes pratiqués dans les établissements de santé. Aujourd'hui, les établissements de santé font l'objet d'une certification par la Haute Autorité de Santé, mais cette certification ne prend pas vraiment en compte la qualité des actes. Et donc, il est impératif que nous progressions sur des indicateurs de qualité. Est-ce que les pratiques sont bonnes dans les établissements? Est-ce qu'elles sont toutes équivalentes? Et il y aura une réflexion dans les années qui viennent sur ce sujet.
Mais le label?
Ouais, le label,
parce que dans les années qui viennent,
label,
oui.
Vous pouvez appeler ça un label, une certification,
bah oui,
une autorisation.
Ça le mérite, j'imagine, sur Internet. Voilà. On regarde s'il y a un label ou non. Donc ça, c'est très pratique. Et ça peut être fait vite ou pas?
C'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte la spécificité de chaque cas. Et donc, ça nécessite un peu de travail de façon à être rigoureux et ne pas pointer du doigt une maternité qui aurait, par exemple, des accouchements extrêmement complexes pour X raisons à mener. Donc, ça nécessite un travail rigoureux de façon à avoir un indicateur scientifiquement prouvé.
Il y aura un petit...
Si, vous allez le voir, parce que dans ma stratégie nationale de santé que je présente la semaine prochaine, il y a un axe dédié à la qualité des soins et ce sont exactement ces sujets-là, la pertinence des actes, la pertinence et la qualité des soins que je veux rendre transparents dans les établissements.
Marie-Geneviève Lambert, bonjour.
Bonjour.
Je lis sur mon écran d'ordinateur, madame, que vous êtes la sœur de Vincent Lambert.
Oui. Et je vous remercie beaucoup de me mettre en relation directe avec Madame le ministre qui nous a écrit il y a peu de temps en réponse à notre courrier. Donc je lis un extrait de ce courrier que le centre hospitalier de Reims, qui pour nous a de graves dysfonctionnements, n'a pas à prendre d'autres mesures que celles qu'il a déjà pu édicter afin de mettre le médecin en charge de M. Vincent Lambert en mesure de se conformer aux devoirs qui lui incombent, notamment en levant d'éventuels obstacles ou en remédiant à d'éventuels dysfonctionnements susceptibles d'affecter l'accomplissement de sa mission par le médecin. Voilà, donc tout ça, ce serait tout à fait valable comme réponse s'il n'y avait pas tout autour un climat d'intimidation et des menaces. Mmh. Il y a eu déjà deux chefs de service qui sont partis, c'est pas de leur propre chef. Voilà. L'intimidation des professionnels, c'est une chose. L'intimidation par les médias en suggérant que nous sommes, que nous voulons sa mort, que nous sommes presque des assassins et que Vincent, par ailleurs, va beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment très grave puisqu'il ne va pas mieux. Et il suffit, par exemple, de faire une expertise sur l'aspect otorhino par un orthophoniste ou un otorhino qui montre qu'en effet, il n'a pas récupéré ce réflexe de déglutition qui est leur argument principal.
Mmh. Marie-Geneviève, avez-vous une question à Agnès Buzyn? Sinon, restez en ligne et je donne la parole tout de suite à Daniel Messager et on vous retrouve dans quelques instants.
Je ne veux pas prendre votre place, bien évidemment, mais est-ce que la question, ce ne serait pas pourquoi les décisions de justice ne sont pas appliquées, puisqu'effectivement, dans le cadre de Vincent Lambert, les décisions de justice ne sont pas appliquées.
Agnès Buzyn.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un sujet qui a été pris en charge par la justice de notre pays. Donc c'est un sujet sur lequel je me suis penchée à la suite du courrier de cette famille. Je pense qu'il faut traiter cela, pas forcément à l'antenne d'une radio. Je crois que c'est un sujet éminemment douloureux pour l'ensemble de cette famille et que, si vous le permettrez, je le traiterai directement avec les personnes concernées.
Daniel, encore un mot ?
Mais non, on attend de voir si les décisions de justice seront un jour appliquées ou pas, puisque Marisol Touraine, avant vous, avait eu effectivement la même position, mais rien n'avait changé entre-temps.
Marie-Geneviève, vous voulez ajouter quelque chose ?
Je veux juste dire que là, ça n'est pas que du ressort du ministère de la Santé, mais aussi de la force publique. Quand il y a une autorisation de manifestation des provis à l'intérieur de l'hôpital avec des t-shirts et des panneaux et des banderoles au moment d'une décision de procédure collégiale qui a abouti au fait que le médecin en chef est parti, je veux dire, là, ça, c'est plus un problème de santé publique. Et il ne s'agit pas seulement de mon frère, enfin, c'est devenu un étendard, mais il y a beaucoup de gens derrière.
Quoi. On a bien compris. Merci beaucoup, Marie-Geneviève Lambert, d'être intervenue sur France Inter. Il est 8h55, Agnès Buzyn, restez avec nous.